Ready, steady.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce EZUDW podcast. Je suis en direct de l'UFA. Je suis avec JQQ, JWQ, JQ Square et Chaz. Et nous avons un invité très spécial. Je pense que je n'ai pas assez dit très. Parce que là, là, c'est énorme. On a eu un des GOAT de commentary américains hier. Aujourd'hui, on a le GOAT français, voire européen.
Oh.
Non, pour de vrai.
Je ne suis pas sûr.
Mr. Ken Bogard.
Bonjour à tous.
Comment tu vas déjà ?
Écoute, ça va plutôt bien, un peu fatigué, mais on n'a pas encore commencé nos top 8 à Street Fighter et à Dragon Ball. Mm-hmm. Donc, on va dire que le gros du travail reste à faire.
Ah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, savoir un peu plus sur comment tu en es arrivé là, tout ton parcours, il y a un truc que je tenais à dire quand même. On a parlé souvent de commentary avec beaucoup de gens, Foster, avec Axel, les choses comme ça. Et c'est fou comment pour tous ces commentateurs, tu es le modèle.
Oh, ils sont adorables.
Non, mais pour de vrai. Et même moi qui suis plutôt fan des commentary américains que personne n'a mis en France, hein, où ils parlent de choses qui n'ont rien à voir.
Guilty, là, ils sont bons.
Ils sont bons.
Ouais. Bah, on n'aime pas quand c'est pas bon.
En fait, c'est que moi, j'aime bien quand ils parlent de choses qui n'ont rien à voir. Genre James Chen quand il parle de la commu, ou Yipes quand il parle même de films.
Ah, Yipes, c'est un excellent commentateur.
Alors, c'est assez bizarre. C'est de la chance que ce soit bon parce que tout ce qu'il fait n'a aucun sens. Je pense que n'importe qui essaierait de faire du Yipes se grillerait.
Oui, bien sûr.
On ne peut pas faire du Yipes.
Bien sûr.
Tu vois, alors que les autres ont quand même des choses qui sont techniquement logiques, c'est pertinent.
Ouais. Après, le bagage technique, c'est à mon avis pas spécialement le plus important pour être un bon commentateur. Il ne faut pas dire de bêtises, c'est évident. Mais on ne s'adresse pas forcément à un public qui comprend tout ce qui se passe dans les jeux de combat. C'est bien de savoir expliquer, c'est bien de savoir vulgariser.
Oui.
Pour vulgariser, il n'y a pas besoin d'avoir un doctorat en jeu de combat pour faire ça. Il faut bien connaître et bien savoir comment apporter les jeux de combat au public. Donc, c'est pas, voilà, parfois, le bagage ultra technique, ça fait de très mauvais commentateurs.
Mmh. Oui, quand ils essaient d'étaler leur science.
Exactement.
Parce qu'il faut restituer un peu l'émotion qu'on ressent.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il faut avoir un traducteur rapide.
Oui.
D'ailleurs, ça, c'est un des trucs que j'apprécie dans ton commentary. C'est très différent de ce que j'aime bien les Américains, mais par contre, je me dis, hein, d'ailleurs, c'est peut-être une idée, hein, en podcast, même en radio, je pourrais écouter.
Tu pourrais écouter et je comprendrais à peu près ce qui se passe.
Ouais. Et surtout, comprendre comment chacun se sent dans la salle.
Mais ça, c'est parce que j'ai un style très radiophonique qui est issu justement des commentateurs radio de football, de courses hippiques ou encore d'athlétisme, tu vois. Parce que je viens d'un j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas de stream, ça n'existait pas, et du coup rien que diffuser certaines choses en direct, ça n'était pas forcément souvent possible. Donc la seule chose que pouvaient entendre les gens, c'était bien souvent la voix. C'était limite plus important que l'image parce que les vidéos étaient tellement en mauvaise qualité qu'on comprenait pas tant que ça ce qui pouvait se passer, hein. Tu vois, on était en 240p à l'époque. C'était vraiment la résolution limite d'une Game Boy Advance. Donc autant te dire qu'il fallait plisser les yeux quand même pour voir quelque chose sur des jeux qui étaient censés être en HD déjà.
Résolution PS1 ou même moins.
Non, c'est ça, c'est la résolution PlayStation 1. Voilà. Mais imagine sur un jeu PS3. Donc ça fatiguait, hein, quand même. Donc c'était les balbutiements de tout ça, les balbutiements d'Internet. Voilà pourquoi j'en ai développé un style très radiophonique. Je suis un ancien professeur aussi. Et du coup, en tant qu'enseignant, pour maintenir l'attention d'une classe, mathématiques.
Oh, okay.
Pour maintenir l'attention d'une classe, voilà, il faut savoir transmettre sa passion et pas trop laisser de blanc ou de moments de malaise aussi dans le cours magistral. Donc j'ai appris à remplir le vide tout seul. Et d'ailleurs, comme je commande souvent tout seul, c'est aussi ce qui a fait que mon commentaire est ce qu'il est aujourd'hui.
D'ailleurs, ça, c'est une facette que je vois rarement chez les commentateurs. Bah, d'ailleurs, maintenant, j'aime bien moi quand ils sont deux. Hein. Mais je pense que tu es le seul, même face aux Américains, qui arrive à autant gérer du commentary solo.
Ouais.
Moi, mon meilleur souvenir, c'est un peu prétentieux de ma part, c'est le jour où je jouais contre Gagapal à Paris Games Week.
Waouh, ouais.
Je pique Dan.
Ah ouais.
Ce jour-là, je me suis dit, non mais ce gars solo, je suis même en train de jouer, je suis en train de m'ambiancer avec ce qu'il est. Ça, c'est fort.
Trop stylé.
Ça, c'est fort et tu es le seul à le faire.
Ouais, bah non. Alors ça, non. Ça, on va remettre quand même l'église au centre du village, mais ce sont les commentateurs japonais qui ont été les premiers à commenter solo les tournois, parce que d'origine, c'est le commentateur du Tenkaichi Budokai des shonen manga qui est seul et qui ambiance la foule. Ici, c'est les showrunners de boxe qui sont seuls et qui ambiancent la foule, c'est les commentateurs du Togeki qui sont seuls et qui ambiancent la foule, c'est les commentateurs de salles d'arcade qui sont là pour ambiancer évidemment tous ceux qui sont dans la salle d'arcade au tournoi qu'ils organisent eux-mêmes. Et ils commentent seuls les jeux de combat depuis toujours, déjà parce qu'il n'y avait pas les moyens de brancher de micro, qu'il n'y avait pas les installations et les setups pour le faire, et que voilà, il fallait se débrouiller tout seul. Donc non, je ne suis pas le premier à le faire, moi j'ai juste repris, on va dire, l'héritage de cette école qui est l'école originelle du commentaire de jeux de combat. C'est quelque chose qui se fait seul. C'est aux États-Unis qu'on a importé le commentaire en duo, et aujourd'hui on les mimique parce que sûrement ça marche peut-être mieux. Mais c'est vrai que je me sentirais jamais autant à l'aise tout seul. J'aurais toujours des choses à dire.
Tu préfères le commentaire solo?
Je préfère commenter seul. Ah oui, je préfère commenter seul. Ça veut pas dire que j'aime pas commenter à deux, mais du coup je m'ennuie parce que pour moi c'est trop simple, je sais pas comment dire.
Plus simple, plus accessible, plus facile.
En fait, je laisse la parole la moitié du temps, quoi. Donc, et quand plusieurs personnes parlent en même temps et s'ils disent pas exactement la même chose, ça, en fait, c'est vite nul. Donc, pour commenter à deux, je trouve qu'il faut une bonne synergie entre deux casteurs. Et souvent, comme cette synergie ne peut exister qu'avec deux casteurs qui ont l'habitude de se voir et de se côtoyer très 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 longtemps, le commentaire à deux, ça donne quoi aujourd'hui? Il y en a un qui parle, il finit sa phrase, c'est l'autre qui parle. Écoutez, hein, c'est tout le temps comme ça. C'est dommage, parce qu'en fait c'est pas de la synergie, ça s'appelle du relais de commentaires. Et en fait ils font juste que commenter tout seul, mais l'un après l'autre.
D'autant plus que toi t'es commentateur et slash animateur, je dirais.
Oui, c'est ça, exactement. Donc commentons à deux, ça permet de prendre sa respiration. Ouais, je viens d'une époque où tu vois, je faisais des sessions de 12 heures de commentaires d'affilée jusqu'à ce qu'on ait plus de voix dans les conventions. Donc,
tes cordes vocales ont des abdos, en fait.
Elles ont été travaillées, mais c'est parce que c'est comme les chanteurs. Les chanteurs, ils chantent pas tous en duo. On n'est pas sous Big Flo et Oli. Tu vois, ils sont là, ils font un concert d'une heure et demie et ils chantent seuls. Et ça doit venir du diaphragme, ça doit venir du ventre. Ça s'entraîne pour ne pas se casser la voix, tu vois, afin de pousser les vocalistes très fort. C'est à peu près la même chose. Et quand je faisais les Red Bull Kumite seul en cage, du début à la fin, tu vois, je commentais seul. Mais moi, je kiffais de ouf. Alors, après, c'est très, très, très égoïste. Et je suis extrêmement content qu'il y ait beaucoup plus de commentateurs aujourd'hui. De joie, parce que je peux pas être partout. Et aussi parce qu'il y a un moment, il faut aussi passer le bâton, le relais, tu vois. Peut-être que Ken Bogard a fait son temps.
Non, il te reste encore beaucoup de temps. D'ailleurs, encore dans les fleurs, parce que c'est important. D'ailleurs, t'as remis l'église au milieu du village, comme t'as dit tout à l'heure, en reconnaissant quand même que ça venait des Japonais, et tu leur as donné l'importance qu'ils devraient avoir, le respect qu'ils devraient avoir. Il y a un truc assez important, c'est que quand t'as dit maintenant il y a une relève qui se fait, d'un côté, tu as permis aux commentaries d'être légitimes en France, ça c'est un. Et un truc assez bizarre, il y a beaucoup de gens à qui je parle qui me disent qu'ils ont commencé Street Gun grâce à toi. C'est assez drôle.
Mais c'est pas, en vrai c'est pas assez drôle, je sais pas si c'est vraiment grâce à moi. On va dire que c'est grâce à YouTube et à l'essor de YouTube. Et comme j'étais un des premiers sur la plateforme YouTube, tu tombais en premier sur mes vidéos. Franchement, à mon avis, mes vidéos, ça aurait été de la merde en boîte, ça aurait été pareil. J'aurais peut-être poussé des gens à faire Street Fighter. Donc force est de constater qu'elle n'était pas si nulle que ça, je pense.
Non, c'est la hype que tu mettais sur le jeu qui donnait envie de faire partie du...
Mais parce que faut comprendre que moi, c'est ce que je vivais au sein de la communauté des jeux de combat tout le temps. C'est-à-dire que j'ai pas attendu de commenter des jeux de combat pour jouer aux jeux de combat. Je joue depuis que j'ai 10 ans. Donc, et je fais des tournois de jeux depuis 2002, donc depuis plus de 20 ans. Et quand j'allais sur les tournois, je voyais déjà les Asenka, les Frionel, les Monsieur Karaté qui montaient, qui essayaient de dynamiser un peu leur jeu aussi en faisant comme ce qu'ils avaient vu au Japon en se déplaçant au Togeki et tout ça. Et force est de constater qu'entre regarder juste un match de fou et le regarder avec un animateur dont on sent qu'il transpire la passion pour son jeu, ça n'avait rien à voir en termes de feeling. Je dis, mais ça, moi, ça marche sur moi, je suis sûr que ça peut marcher pour pas mal de monde, parce que je sais que c'est ce que j'arrivais à retransmettre aussi à mes élèves en mathématiques, un peu la passion que j'avais pour les mathématiques. Le côté quelque chose vous passionne, ça se voit, ça permet vraiment d'avoir un côté extrêmement viral. Et ça permet aux gens de s'y intéresser. Je pense que c'est ce qui s'est passé sur Street Fighter 4, outre le fait que le jeu soit quand même assez bon, qu'il est ouvert avec Internet, les portes du pénitencier, si je peux dire. il a permis à beaucoup de monde de se mettre au jeu de combat sans être enfermé dans une niche locale assez difficile de se sortir. Voilà, peut-être que de regarder des vidéos YouTube de joueurs ultra forts, ça les a rendu cool. Mais je pense pas que ce soit mon commentaire à proprement parler qui ait aidé à faire ça. Je pense plutôt que c'est, comme je connaissais bien, j'allais chercher des vidéos qui étaient inconnues pour les gens. Et ils constataient qu'il y avait des joueurs qui étaient des dieux vivants sur les jeux de combat. Et que, en fait, les jeux avaient un véritable intérêt parce qu'il y avait des joueurs qui jouaient vraiment bien dessus. Ils disaient « Ah putain, j'aimerais bien moi aussi ». Être un joueur qui joue aussi bien, ça a l'air vraiment, vraiment stylé. Et je faisais que mettre en évidence le talent des joueurs qui jouaient au jeu. Mais je pense que ceux qui ont donné envie de jouer aux joueurs, c'est pas Ken Bogard, c'est Tokido, c'est Umehara Daigo, tu vois, c'est Justin Wong, c'est les joueurs qui leur ont donné envie. Juste quand tu regardes une vidéo avec des joueurs sans analyse pure et dure, bah tu comprends pas trop non plus ce qui se passe et tu comprends pas trop pourquoi c'est intéressant. Donc t'as tendance à zapper, sauf si c'est l'Evo Moment 37, tu vois, même l'Evo Moment 37, tu t'intéresses pas plus à ce qu'il y a au fond. Quand t'as un commentateur qui vulgarise derrière, bah tu t'intéresses à ce qui est. Mais globalement, ce qui t'intéresse, c'est le match, c'est pas le monsieur qui parle dans le micro.
C'est assez drôle.
Oui, ce n'est qu'un accessoire.
Tu as donné tous les éléments qui participent à dire que tu es un des éléments déclencheurs de l'engouement pour Street Fighter 4. Il n'y a pas que le commentary, il y a le choix de vidéo, il y a retranscrire ce qui se passe.
Ouais.
Voilà. Après, on a vécu. Enfin, tu as juste montré ce que toi tu ressentais à l'intérieur.
Voilà, c'est
et
ça.
C'est exactement ça. Mais bon. Je tiens à te redonner cette paternité-là quand même. Ça, c'est très important. Mais si tu as, on va dire, participé en tout cas à l'engouement qu'il y a Street Fighter 4, qui a participé à l'engouement te concernant pour le commentary?
C'est très clairement le Togeki et les premiers Stunfest que j'ai fait. Alors j'ai fait les premiers Stunfest, c'est Asenka, Guillaume d'Horizon.
Dédicace à Asenka.
Ouais, Frionel. On va dire l'ensemble de l'organisation du Stunfest. À l'époque, il y avait même Real Myop et Cœur de Vandal qui commentaient des speedruns là-bas, tu vois, et qui expliquaient un peu comment les speedruns étaient. Je pense que ça m'a donné vraiment envie d'y faire. C'est vrai que quand je suis revenu du Stunfest en 2007, je me suis dit, ah, ça, j'aimerais vraiment. Ça serait peut-être super intéressant de faire ça. Puis en 2008, YouTube a devenu un peu accessible. Je me suis dit, bon, je vais tenter un peu au pif de le faire. On verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, c'est surtout ça. Après, il faut savoir que nous, on se passait les vidéos via DVD, via comment on appelait ça, les DVD ripés, là, les DivX.
Oui.
Des matchs japonais, parce que eux enregistraient tout sur DVD et ensuite ils vendaient les DVD dans les salles d'arcade de matchs. Oui, ils vendaient les DVD dans les salles d'arcade de matchs super, super stylés et super commentés. Le Togeki, c'était en DVD, il fallait l'acheter, tu vois, à partir de 2002. Et nous, on se passait ces DVD-là et on regardait les DVD et on voyait des matchs. Des trucs et on pensait même pas possible le niveau sur les jeux auxquels on jouait et les commentateurs derrière en japonais on comprenait rien de ce qu'ils racontaient, d'accord. Ils étaient tellement over la hype, over level, ça donnait trop envie. Et tu vois, c'est ça que je suis en train d'expliquer. En fait, les Japonais m'ont donné envie de commenter. Je comprenais rien
avec
de ce qu'ils disent.
Ouais.
Tu comprends ce que je dis? C'est transmettre l'émotion. C'est pour ça que je te dis que ce soit Ken Bogard, que ce soit n'importe qui a une émotion sincère au travers des jeux de combat. Bon, évidemment, qui raconte pas de la merde, surtout si c'est dans la langue que tu comprends, c'est plus important. Ça marche.
Exact.
Et ça marche dans tout. Ça marche sur League of Legends, ça marche sur Minecraft, ça marche sur Rocket League, ça marche dans tout.
Alors l'émotion, c'est vrai qu'on la ressent. Bah, d'ailleurs, c'est ce que j'aime bien chez Yipes, hein. On sent qu'il vit ce qu'il dit. Et c'est quelque chose qui s'entraîne difficilement. Comment toi, tu t'es entraîné à maîtriser cette façon d'approcher le combat?
Franchement, à force de faire des vidéos, j'ai commencé à trouver mon style, à établir, à avoir plus de réflexes cognitifs. On va dire que j'avais déjà les bases de connaissances de jeux de combat très très établies parce que depuis 2002 vraiment je théorie craft les jeux assez intensément et puis ensuite c'est le métier de prof. Je te jure c'est le métier de prof. Le métier de prof, c'est un métier d'animateur.
Oui.
Donc
le pont
entre l'enseignement et le commentaire de jeux de combat, a priori ça a l'air d'avoir rien à voir. Hein. Moi je le trouve évident. Ouais. Franchement je le trouve évident. Donc pour moi, je dis souvent, je fais le même métier, j'enseigne les jeux de combat maintenant, c'est tout.
Excellent, c'est bien dit. Et au niveau aussi des débuts, professionnellement parlant, comment c'était? Parce qu'il n'y avait aucune visibilité.
Ouais.
Et en plus, si je me rappelle bien, tu devais te balader avec ton matos.
Il n'y a pas de réseaux sociaux, je devais me balader avec mon matos, encore ça allait, mais les structures, franchement, les structures se structuraient de plus en plus. Et les salles d'arcade avaient investi dans un peu de matériel pour pouvoir enregistrer des vidéos. Il y avait des tournois qui commençaient à vouloir vraiment diffuser pour faire de la publicité de leurs événements. Généralement, quand j'arrive.
On est à quelle année ?
On est en 2009.
Ok.
Généralement, en 2009, quand j'arrivais sur un événement, il y avait quand même déjà un matériel pour pouvoir faire des choses. Parce qu'en fait, ce matériel, il n'est pas si éloigné du matériel de concert qu'on peut avoir. En fait, donc, je sais qu'aujourd'hui, là, je vois la platine Rode que t'as. En vrai, c'est du matériel ultra accessible maintenant pour n'importe qui. Ça, c'est abusé.
Plug and play.
Avant, ouais, exactement, plug and play. Avant, on avait des trucs uniquement professionnels. Tu vois, on ne vendait pas ça, entre guillemets, au grand public. Mais ça restait quand même accessible. Et toutes les grandes salles des fêtes en possédaient. Donc de toute façon, à partir du moment où tu étais dans une salle de spectacle, que tu étais dans une salle des expositions ou une salle des fêtes, tu avais généralement accès à ce matos pour peu que tu le louais. C'était pas si compliqué. Ce qui est devenu compliqué, c'est la diffusion sur internet. Là ça commence à devenir compliqué.
Comme à partir de vidéo,
ouais, c'est ça. À partir de 2012, quand Twitch est arrivé, devenu un peu plus public, il a fallu avoir quand même des PC qui soient capables de tanker des flux d'encodage assez importants et des flux de diffusion, donc des connexions internet qui aillent avec. Là, par contre, techniquement, ça a été vraiment très, très, très dur, mais parce que les infrastructures n'étaient pas encore en place. Aujourd'hui, il y a presque la fibre quasiment partout et le matériel n'a jamais été aussi accessible. Enfin, c'est abusé. Aujourd'hui, tu veux devenir streamer, tu fais ton pack à 1000 balles et tu as le full sano du truc. Avant, il n'y a que la radio qui pouvait se payer des micros aussi ouf et des platines aussi ouf. Maintenant, tu fais quasiment ce que fait la radio chez toi pour un billet de 1000.
En plus, la radio, c'est fixe. Et là, maintenant, même pour le même prix,
mobilité,
tu peux avoir la même chose et mobile. Tu
achètes un Zoom et deux micros au pif et t'es bien. Tu fais du podcast. Hein, donc, ouais, voilà, c'est ce qui change beaucoup avec notre époque, l'accessibilité de ces choses-là et la réduction du prix. Bah, merci l'ère numérique, finalement. Pour tout ça. Donc ouais, en tout cas, j'ai pas galéré énormément avec mes setups un peu partout. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'arrivée des réseaux sociaux. Ça fait changer énormément de choses parce qu'aujourd'hui, notre métier, il est aussi un métier d'image et faut entretenir cette image. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop à faire avant.
Ouais. Et tu vois là, tu dis qu'il y a une accessibilité maintenant avec le matériel qui fait que les gens n'ont pas certaines questions qu'ils doivent se poser et le métier, le business est assez établi maintenant. C'est-à-dire que ce n'est plus comme avant où quand tu disais que tu es youtubeur, on se demandait si tu vivais chez tes parents. Tu peux dire que tu es youtubeur, commentariste, c'est un vrai métier.
Ouais.
Est-ce que c'est pour ça qu'on observe que les commentateurs de maintenant sont souvent des freelances, là où toi tu as choisi de ne pas l'être?
Ouais, alors j'ai commencé freelance aussi, faut savoir, mais je pense que si tu es juste commentateur freelance, c'est impossible de gagner ta vie en France.
Même Ken Bogard,
j'ai jamais réussi.
C'est
à...
le truc, je n'ai jamais
réussi à gagner ma vie en tant que commentateur. C'était impossible. Les événements sur lesquels j'allais, il y en a pas tous les mois. Et ensuite, ça me rapportait 500 balles par mois. Qu'est-ce que tu veux vivre avec ça? Souvent, en plus, dans les jeux de combat qui sont des communes qui n'ont pas non plus énormément d'argent et qui organisent des tournois avec 3 francs 6 sous, souvent dans le milieu associatif. Non, bah, tu peux pas arriver et de réclamer de l'argent à des gens qui se donnent de leur temps et qui se butent pour organiser un tournoi. Non, tu les aides. Et ça, c'est pas possible. Enfin, je pense à l'échelle française, si tu fais pas des jeux de combat, enfin des jeux, pardon, extrêmement populaires, c'est pas possible de vivre du commentaire. Par contre, tu peux vivre de l'influence, tu peux vivre du streaming, et encore, c'est de plus en plus dur. Tu peux vivre de YouTube, mais c'est un tout cumulé, tu vois. Juste être commentateur, c'est pas possible. Donc moi, c'est vrai que pour gagner ma vie, j'ai dû intégrer des structures pour pouvoir faire le métier que je voulais, ouais. Mais même si peut-être aujourd'hui je peux retourner à mon compte et être freelance, jamais, mais au grand jamais, c'est commenter des jeux de combat qui me fera vivre. Au mieux, les meilleures années, pour être totalement transparent avec vous, les meilleures des meilleures années, et il faut que je sois embauché partout de chez partout, je me fais 10 000 euros par an. Oh. Voilà. Et il faut que je sois embauché partout, c'est-à-dire que je fasse toute la Street Fighter League, tout le Capcom Pro Tour, la totalité des événements européens qui, où ça parle français en commentaire, je me fais max 10 000.
Mais je, franchement, voilà. je, bon, ok, bah là je comprends mieux parce que je me disais, mais c'est pas possible qu'un gars comme Ken Bogard, bah, parce qu'il n'y a pas que le commentaire, il y a aussi l'image que tu,
oui,
que
bah
tu
oui.
as. C'est que si bah, tu es dans un event, les gens viendront d'avoir le des revenus par streaming, des revenus peut-être même en merch. On aurait acheté des t-shirts Ken Bogard. Non mais, bon après je te dis ça, tu, c'est tes choix, tu fais ce que tu veux. C'est juste que moi en tant que fan de, la, de Street, je dis mais c'est pas possible quoi.
D'après toi combien je touche aujourd'hui ici pour cet événement de 3 jours? Vas-y.
Un yacht, des la coke.
Ah, d'après vous combien je touche pour un événement comme ici?
Ah, un événement ici?
Ouais, ici l'événement. Alors, les 3 jours d'événement, combien je touche?
800 euros la journée.
Vas-y.
J'aurais dit quelque chose pareil.
Ouais. Rien.
Non. Non.
Non mais parce qu'en plus, en plus tu commentes, t'as fait le commentaire de Street Fighter.
Non. Oui.
T'as fait le commentaire de, oui, Dragon Ball.
Non. Oui.
Et après peut-être d'autres choses.
Je le fais gratuitement.
Non, tu le fais gratuitement.
Je le fais gratuitement.
Mais
je
c'est parce que t'as choisi de le faire gratuitement.
Oui, mais en échange, tu vois, c'est streamé sur ma chaîne. Mais que va me rapporter ma chaîne durant ces 3 jours? 150 euros, je pense, un truc comme ça, sur l'ensemble de la diffusion avec les pubs et les machins, c'est tout. Voilà.
Attends, mais donc, pourquoi tu prends pas de cachet?
Mais parce que, enfin, vous pensez qu'on gagne de l'argent ici avec, avec l'UFA?
Enfin, je pense que l'UFA peut vous payer 800 balles la journée.
L'UFA ne gagne pas d'argent. Moi, Abou, je le connais depuis tellement longtemps. Les mecs, ils montent tout sur la passion, sur leur temps. Ils veulent aussi faire un truc qui déchire pour toute la communauté des jeux de combat. Et c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Je peux pas arriver et dire « Moi, Julien Bogard » et je réclame de l'argent à des mecs qui vont finir sûrement déficitaires ici. Tu comprends? C'est pas possible. Enfin, comment mentalement je peux me dire que je vais prendre de l'argent à des gens qui n'arrivent même pas à rentabiliser
après,
leur event?
Mais tous les autres là, ils sont payés. Hein.
Oui, bah très bien, ils font ce qu'ils veulent.
Mais
moi mentalement je ne peux pas. Parce que je sais ce que c'est qu'organiser des événements comme ça. Je sais ce que c'est que de venir et de faire tout ça. Tu pourrais dire si je suis payé, c'est sur ma chaîne que c'est diffusé, c'est top.
Ah,
d'accord, voilà. Voilà.
En plus, c'est tant mieux pour eux, c'est diffusé sur ta chaîne.
C'est le deal, c'est ça, tu vois. Mais je donnerai de ma personne toujours à l'infini pour soutenir les organisateurs d'événements comme l'UFA. Et on va dire, c'est pas des événements comme ça à qui je réclamerai de l'argent.
On va faire un tournoi sur Nancy et puis si c'est payé, caché de zéro, quel beau garde, c'est bon.
Écoutez, si vous n'êtes pas déficitaire, on en reparle, hein, d'accord.
Ouais. Non mais parce que je trouve ça un peu dommage pour le coup. Mais c'est pour ça que c'est parfois bien d'avoir un agent qui est un peu plus sans pitié, tu vois. Ça change beaucoup
je
la donne.
Je peux pas être sans pitié avec des gens que je connais depuis 20 ans.
Mais bien
ans,
sûr,
gars,
pour Abou, je comprends. Mais je veux dire.
Et puis les gens, ils vont dire quoi? Ken Bogard, ça y est, il a pris la grosse tête.
Mais tu rigoles.
Il fait payer les frères.
Tu rigoles.
Qu'est-ce que c'est que ces histoires?
Il fait payer les frères.
C'est normal. Et je dis pas que je fais tout gratuitement. Je fais tout
gratuitement.
Franchement, oui, sûrement. Mais non. Voilà. Enfin. D'un point de vue. Je veux dire, d'un point de vue moral, je trouve que ça ne se fait pas.
Pas
là
d'accord.
C'est différent, il y a des gens qui viennent des États-Unis qui font de la promotion complète pour un Pro Event. Vous avez qu'à dire que je fais partie de l'organisation de l'événement, voilà. Et finalement
tu
quelque part ça fait un peu ça.
Ces gens-là
ça.
Aux États-Unis, ils disent aux amis ouais, mais ton ami même a envie de te payer normalement.
Oui,
enfin, après
bah, ils font
sans
voilà,
sans jeter quoi que ce soit dans quoi que ce soit, de l'huile sur le feu, non, je fais pas ça. Je veux dire moi en tant qu'ami, quand il y a un gars comme ça, j'ai envie justement que lui
je sais mais est-ce que j'ai l'air d'être dans le besoin?
Non, c'est pas ça que je dis.
Voilà.
C'est le principe.
Parce que tu aurais.
Parce que j'ai l'air d'être dans le besoin,
dire,
les gars. Franchement, ça va.
Comme ça, il doit être ton yacht.
Ouais, bah, même sans être dans le besoin, c'est par le principe. Tu viens donner de ta personne, tu fais le commentary, etc.
Tout est sur ma chaîne. Donc, voilà, ouais. J'en profite
c'est
aussi de cet événement. J'en profite de cet événement.
On va pas t'aggro non plus.
Il faut aider, il faut soutenir. Si vous vous rendez pas compte à quel point c'est compliqué pour les gens qui organisent des événements comme ça.
Non, je comprends au point que, bah, que je fais les interviews. Bon, oui, j'ai mon bénéfice payé, puis personne ne m'a rien demandé pour le coup. Mais je ne fais pas payer.
Ah, je reproche pas, je
non,
reproche
non,
pas aux autres.
Non,
hein,
non, non,
je suis pas en train d'accuser les gens. Quoi que ce soit.
Ouais, Foster.
Je trouve ça normal que tout le monde soit payé pour les commentaires qu'ils font, d'accord. Mais comme je dis, je suis un peu de la famille, tu vois. Donc,
oui, je comprends.
C'est différent.
C'est pour ça que je te dis que même les interviews, quand je les fais, je demande rien. Il y a même des événements où ils m'ont proposé d'être payé et je dis non, ne me payez pas pour payer les autres qui, eux, peut-être ont plus besoin, tu vois, pour le coup. Donc, ça, je comprends. Mais c'est juste étonnant. Je veux dire, quand tu es positionné. C'est comme si le commentateur japonais que tu aimes bien, celui qui fait Itte macho, je sais pas quoi.
Ouais.
Il te dit ah, bon, en fait, non, il est pas payé. Tu vas dire non, mais arrête.
Mais ça a été le cas très très longtemps.
Ouais, mais c'est. Non, mais
croire.
Jusqu'à un certain temps, il n'y avait pas les moyens à une époque. Quand il y a les moyens maintenant, tu serais deg de savoir qu'il ne gagne que dalle dedans alors que c'est un des précurseurs.
Très bien ce que Papa Tiwawa gagne et avec Capcom il gagne que dalle. Vous seriez vraiment mais choqué de savoir combien Capcom donne pour un week-end de commentaires de Capcom Pro Tour. C'est rien du tout, c'est peanuts. Pour les commentateurs anglais, ils proposent quelque chose comme 250€ le week-end pour commenter un CPT. 250€ le week-end, c'est moins que le salaire d'un technicien son pour l'ensemble du travail. Donc, tu vois, c'est des trucs Capcom sait. Il y a une abondance de personnes qui font du commentaire aujourd'hui. De toute façon, les gars, ils vont dire oui. Ils n'ont pas besoin de payer plus. Mais tu vois, moi, c'est des choses que je n'accepte pas. Tu vois, si c'est pour travailler avec Capcom, je n'accepte pas d'être payé si peu. Tu vois, à ce moment-là, je leur demande beaucoup plus.
C'est terrible de se dire ça parce que, par exemple, il y a d'autres jeux comme par exemple Rocket League où les commentateurs.
Mais c'est des jeux beaucoup plus populaires.
Mais attends, il n'est pas possible de faire une coalition.
Vous rendez pas compte à quel point les jeux de baston, c'est niche. On parlerait d'autres jeux, ok, mais il faut aussi remettre. La niche là où elle est. Vous pensez que ça génère beaucoup d'argent, les jeux de combat?
Non, mais il n'est pas possible de faire une certaine coalition entre les commentateurs pour pouvoir exiger
C'est ce que tout le monde fait. D'ailleurs, les prix s'alignent durant l'Evo. C'est ce qu'on a tous fait. Les commentateurs de l'Evo, on s'est tous alignés sur des prix qui soient honnêtes. Mais tu vois, la production nous a dit on ne pourra pas payer plus que ça. Sinon, vraiment, on est mort. Ouais. Et en vrai, les prix qu'on a demandé sont largement inférieurs au prix qu'on devrait réclamer de base. Parce que on fait des compromis. Non, ça vous donnerait rien parce que c'est des prix bruts, il y a le net et en fonction du statut de chacun, c'est différent, tu vois. Okay. Moi, je suis payé en prime parce que je suis en CDI, quelqu'un comme TPK va être payé en indépendant, donc on va pas toucher la même chose. Par contre, on a demandé à peu près les mêmes trucs et les mêmes riches d'horaires, donc ça vous aiderait pas beaucoup. Mais on va dire que c'est pas non plus énorme. C'est pas un métier rentable, le métier de commentateur. Et même pour les plus populaires dans les jeux de combat, ils font des choses avec. Ils ont le métier d'influenceur à côté.
Créateur
de contenu. Exactement. C'est ça qui va rapporter derrière. Alors peut-être que l'édifice du commentaire participe à ça. Mais vous savez que même dans le milieu du sport classique, les commentateurs sportifs classiques, c'est surtout par le fait d'être responsable éditorial sur des émissions de sport ou de faire du journalisme sportif qui va vraiment rémunérer leur salaire à la fin du mois. C'est pas juste commenter des matchs ou des compétitions. Voilà. Donc imaginez sur des sports aussi populaires, je sais pas, le cyclisme, l'athlétisme, la natation. Déjà, c'est comme ça. Que vous venez pas nous dire ici qu'on peut vivre du commentaire. Enfin, faut arrêter de faire croire ça aux gens.
Non, moi je dis pas vivre du commentaire. Je dis qu'il y a une certaine notoriété que tu peux acquérir qui te permet de débloquer certaines autres.
Oui, ça d'accord.
Tu peux même host un événement comme le fait Kayane par exemple.
Tout à fait.
Mais bon, ça c'est plus un agent qui saurait.
Exactement.
Là c'est la passion qui parle.
Oui, c'est ça. On va dire qu'à l'UFA c'est la passion qui parle.
Ok. Et est-ce que ça t'a donné envie de faire, justement, on parlait des autres sports, des choses comme ça, de faire du commentary dans d'autres rubriques, d'autres...
Ouais, bah j'en fais déjà beaucoup, tu sais, moi je fais beaucoup de Pokémon, j'ai déjà commenté beaucoup de compétitions Pokémon. Globalement, franchement, tu me mets sur n'importe quoi, je peux tout commenter. Avec le stream, j'ai déjà commenté du Farming Simulator, du F1 2022.
Des fléchettes,
tu me mets sur n'importe quoi, moi il n'y a pas de problème, hein. À partir du moment où je comprends les règles du jeu, c'est parti, en allant guingant, je te commande ce que tu veux.
Même en sortant du jeu vidéo, non ?
Oh oui, même en sortant du jeu vidéo. Après, si c'est du sport traditionnel, mieux vaut quand même avoir un bagage de connaissances assez important. Mais aujourd'hui, je peux commenter du cyclisme, aucun problème.
Parce que j'en connais assez en cyclisme. T'avais fait un truc où tu... Non ?
J'avais fait quoi ?
T'as fait un grand tour à vélo, là, à un moment donné.
Je fais pas mal de longues distances. Ouais. C'est vrai que je retransmets sur les réseaux sociaux. Ouais. J'ai fait quoi ? Paris-Le Mans à vélo, j'ai fait Paris-Le Havre à vélo, et Paris-3 à vélo.
C'est une passion récente, des 220
km. C'est une passion qui m'est venue surtout en sortie de confinement, quand mon physique était juste dramatiquement catastrophique, que j'étais à 80 battements minute au repos. Wow. Je me suis dit il faudrait peut-être que je fasse du sport. Voilà, je me suis fait refaire du sport. Moi je suis asthmatique. Donc les seuls sports qui me vont bien, c'est des sports doux, sans traumatisme violent. Je ne peux pas trop faire de course à pied, je fais vite des crises d'asthme. La natation avec le Covid, c'était compliqué parce que les pédiluves. et du coup, le vélo, c'est un peu... Toujours été fan de sport mécanique. Aujourd'hui, on va être honnête, le sport automobile, c'est pollution lente, donc c'est pas non plus les c'est pas les disciplines les plus en vogue actuellement, même si encore peut-être bien trop. Le vélo ça s'est franchement ça s'est imposé à moi comme étant naturel. C'est à la fois un moyen de transport craqué et à la fois un moyen de faire du sport ultra cool quoi. Ça vide la tête, ça entretient le corps et l'esprit. J'aime beaucoup le vélo.
Et là t'as pris quoi, un semi électrique?
Non, je suis en musculaire pur.
Pur.
Ouais.
Ok. All right.
Et après, j'ai plusieurs vélos.
Flex.
On a souvent beaucoup de vélos, les fans de vélos.
Ça coûte cher, un vélo de compète.
Un vélo de compète, oui, ça coûte très cher. Mon vélo, il coûte plus de 4 000 €. Hein.
Ah oui.
Donc, on a des clients dans la vie de tous les jours qui vendent des vélos électriques à 8 000 balles, quoi.
Oui.
Les moustaches, les trucs comme ça, ça peut vite monter.
Des trucs très solides.
Et ça se bichonne un peu comme une voiture, c'est-à-dire on change les
Mais souvent. Techniquement, c'est extrêmement simple. Là où les voitures, c'est plein de parties techniques très compliquées. Un vélo, c'est d'une simplicité déconcertante. Et même des vélos de compétition ultra de pointe. Il y a des transmissions électroniques qui sont peut-être un peu et la partie peut-être est un peu la plus compliquée. Mais sinon, c'est des pignons, une chaîne, deux roues, un cadre, un guidon. Donc c'est très très simple, vraiment, un vélo. Et avec des compétences en mécanique basiques, tu peux réparer ton vélo. C'est très facile de changer une roue de vélo, de changer une chambre à air quand t'as crevé. Si t'as déraillé, c'est très simple de remettre une chaîne en place. Mon gars, si t'as la courroie qui sort de ta voiture, bonne chance pour la remettre en place quand t'es en bagnole. Quand t'as crevé, c'est toujours l'enfer en voiture. Le vélo, tout est plus simple. Tout est plus simple. Et bon, outre le fait que t'es pas obligé d'acheter un vélo à 4 000 balles, mais tout est moins cher aussi. T'as rien à consommer d'essence quand tu te déplaces. En fait, ça m'a fait gagner énormément d'argent de me mettre au vélo, et ça me fait être en meilleure santé. En fait, il y a
de voir un meilleur
que
décor.
Des bénéfices. Et
de voir un meilleur décor, parce que quand t'as un voiture, tu regardes pas forcément autour de toi.
Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que t'apprécies. Mais moi, ça j'ai toujours apprécié. Je suis quelqu'un de la campagne, donc j'ai toujours apprécié beaucoup la nature et les voyages.
Par contre, le risque n'est pas le même, parce que la sécurité à vélo est.
Ça, c'est une idée reçue. Hein. Si tu es prudent à vélo, il n'y a pas plus de risque. Ceux qui meurent à vélo, c'est ceux qui sont en cause, c'est les automobilistes. C'est eux les assassins, c'est eux qui tiennent des engins de mort dans les mains, c'est pas le vélo. Alors oui, je comprends que ça puisse faire peur à certains moments, surtout que les infrastructures sont pas top. Mais quand t'as l'habitude de rouler, j'ai jamais eu un accident à vélo, donc faut juste pas rouler n'importe comment.
On revient un peu sur Street Fighter, enfin sur le commentary. T'as eu un moment, j'ai l'impression, une sorte de hiatus avec Street Fighter 5.
Non, c'est juste qu'il y a eu le Covid. En fait, il n'y a pas eu d'hiatus. Moi, j'ai toujours adoré commenter Street Fighter ou Street Fighter 5. Mais avec le Covid, la compétition de Street 5, ça a été de la merde. Ça a été de la merde. Tout était online, tout était pourri. Je vous ai expliqué combien Capcom payait pour le CPT. Moi, je dis, les gars, vous êtes sympas, mais vos features online sont pourries. Le netcode est à chier. Vos compétitions, franchement, c'est de la merde. Et la seule chose que je kiffais, c'est faire les Red Bull Comité, quoi, tu vois. Là, c'est trop stylé. Hiatus ou pas hiatus, franchement, il n'y a pas eu d'hiatus. Moi, j'ai toujours kiffé Street Fighter. J'aime moins jouer au 5 que j'aimais jouer au 4. Mais peu importe, je kiffe Street Fighter 5 en tant que commentateur. En tant que spectateur, mais avec le Covid, soyez honnête. Enfin, franchement, c'était toujours les mêmes qui jouaient online sur le training stage à l'infini. Donc moi, je voulais bien organiser des tournois, mais c'était pour voir le 150 millième Nastinas contre Kills You, tu vois, sur le training stage. Franchement, flemme de ouf. Hein. Ouais. Et tout le monde a même lâché. Tous les Japonais ont profité pour avoir des enfants, lâcher un peu le jeu.
On n'a jamais autant joué à différents jeux.
Après c'est ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est je suis retourné sur Fightcade. Et puis j'ai franchement, pendant le confinement, je jouais à Mark of the Wolf et je jouais à Street Fighter 2 sur Fightcade. Moi, ouais, c'est ce que je faisais. Ouais. Donc voilà, franchement, j'ai jamais lâché les jeux de combat ni l'intérêt. Mais vous, enfin, regardez juste ce qui s'est passé durant ces deux années de Covid. Mmh. Sur la moitié de Street Fighter V, la moitié c'était en période Covid. Ouais. Ils ont annulé les EVO, ils ont annulé le Capcom Pro Tour, ils ont tout fait online. Bah évidemment, vous avez le sentiment que qu'on en a moins fait. Bah ouais, des événements comme ça n'existaient même pas.
Il n'y avait pas de quoi faire.
Donc vous voulez, enfin je vais pas inventer des choses qui n'existent pas hein, non plus. Je suis pas magicien. Donc j'ai préféré prendre mon mal en patience, comme tout le monde a pris son mal en patience, et puis revenir en grande pompe quand les choses pouvaient bien se faire comme ici. Et là on kiffe.
En parlant de revenir en grande pompe, il y a Street Fighter 6 qui met tout le monde d'accord. J'ai jamais autant vu de joueurs de différents jeux vouloir intégrer Street Fighter. J'ai vu des joueurs de Tekken, des joueurs de Smash, des joueurs de DB, des joueurs de Guilty.
Ça fait plaisir.
Qui attendent tous Street Fighter 6.
Ça fait plaisir.
D'ailleurs, en ce sens, il y a autre chose que nous on attend aussi, parce qu'il y a des voix des commentateurs anglais.
Oh.
Comment ça se passe de ton côté? Bah, vu que avec Capcom, c'est pas forcément la négociation la plus simple la plupart du temps.
Franchement, j'ai des très bons rapports avec Capcom. Hein, ah. Il faut le savoir. Bon, faut différencier Capcom et puis ceux qui organisent business, le Capcom Pro Tour, etc. J'ai des très bonnes relations avec Capcom. Il y a absolument aucun problème. Hein. Bon, je trouve qu'ils continuent de se structurer, mais tu vois, aujourd'hui, on a négocié la Street Fighter League avec eux. Ça s'est ultra bien passé. Capcom Japon reprend les rênes de beaucoup de choses. Ils comprennent les problématiques. Ils savent exactement un peu mieux le monde dans lequel on vit, le monde de l'influence, des personnalités. Ils commencent à connaître la valeur des choses, des commentaires. Ça évolue, je veux dire. Ça évolue vraiment. Bon, évidemment, je dis, durant la période Covid, c'était pareil. Il n'y avait quasiment pas d'activité. Et puis, le Capcom Pro Tour, ils le maintenaient en vie juste pour ne pas perdre la licence. Donc, évidemment, les prix que je vous ai donnés sont débiles. Oui. Mais parce que la situation était débile, voilà. Mais chose, c'est plus comme ça, ça change et ça va très bien. Et j'ai des très bonnes relations avec Capcom aujourd'hui. C'était loin d'être le cas d'ailleurs à la fin de Street Fighter 4. Aujourd'hui, ça va très bien. Et Street Fighter 6, c'est vrai qu'il est très très attendu de tout le monde et qui semble un peu faire l'unanimité. En tout cas, pour tous ceux qui ont pu tester le jeu, ça me fait très plaisir. Moi-même, je suis extrêmement saucé par le jeu. Je le trouve à la fois très agréable à regarder et très agréable à jouer. Et ça, c'est quand tu mêles les deux, c'est vraiment, tu tiens déjà un produit cool, tu vois, à amener aux gens.
Facile d'accès et avec une certaine profondeur. Mais maintenant, est-ce que tu en sais plus ou est-ce que tu peux en dire plus sur l'éventualité d'avoir ta voix aussi
Pour le moment, je n'ai été contacté de rien, ni personne. J'ai pas enregistré de voix. Voilà, il n'y a pas de projet d'enregistrement de voix qui est là. Si on le fait pour la France, on doit le faire pour l'Espagne, on doit le faire pour l'Allemagne, on doit le faire pour l'Italie. Mettre les commentateurs français, c'est chiant, en fait, tu vois. Donc, je pense pas qu'ils le feront un jour. Et après, pour vous dire la vérité, cette fichure de commentateur, moi, je l'aime pas trop.
Ah ouais?
En fait,
peut gêner le vrai commentaire.
Franchement, déjà, je pense que c'est un peu pour les casus qui veulent s'amuser et avoir des semblants de commentateurs. Mais les phrases reviennent en boucle.
Oui,
à des moments où tu veux, c'est tout le temps la même chose. C'est bien 5 minutes, mais quand je joue au jeu, moi, la première chose que je fais, c'est désactiver off. Hein. J'ai pas envie d'entendre James Chen dire « Wow, it's amazing, what a read !» Voilà, nice DP. Je veux pas.
Ouais.
Donc, je pense que même si c'était Ken Bogard, j'aurais pas du tout envie
de
l'entendre.
Voix,
tu vois. Exactement, parce que je sais que je vais enregistrer les mêmes lignes de dialogue que tous les autres, en fait. C'est juste ça, et je connais déjà les lignes de dialogue. Je vous dis, ça va être... En vrai, c'est sympa d'avoir ça, mais c'est casse-pied. Vous le mettrez jamais. Vous réclamez, mais vous le mettrez jamais, jamais. Ça va vous saouler. Une fois que vous aurez joué 10 minutes, vous aurez entendu tous les loops de dialogue, vous aurez entendu tous les trucs, ça va vous saouler. Comme le commentateur de Pokémon Stadium vous saoulait au bout d'un moment à répéter toujours, tu vois.
Après, moi j'aimais bien l'ambiance qu'il y avait en commentary sur Street Fighter 4 par exemple. Ils disaient de
c'était un peu derrière, c'était très en fond. Mais ils font ça depuis Street Fighter Alpha. Il y en a un peu dans Street Fighter 3 aussi. Ils ont toujours fait ça un peu en fond. Dans Street 5, il y a aussi un peu ce truc en fond. C'est un mec neutre qui est pas une voix connue identifiable et qui est là. Tu vois, dans Alpha, ça fait All Depend That Your Skill. Take it great. Et puis c'est parti. Ça se lançait, tu vois. Donc ça a toujours été là. Il y a toujours eu un peu ces voix là en dessus. Mais c'est cool que les jeux évoluent avec la fichure des commentateurs. Et ce sera, je veux dire, c'est que le début. En fait, pour le prochain, je vous dis déjà comment ça va se dérouler. Probablement il y aura des voix qui seront enregistrées par certains commentateurs et ce sera une intelligence artificielle qui reproduira de façon algorithmique un commentaire quasi fidèle avec des phrases vraiment originales. qu'elle elle-même programme en fonction de l'action. En fait, t'auras pas, on n'aura plus enregistré des mots qui sortent à des moments donnés. Mmh. Il y aura les moments et l'IA comprendra qu'il faut structurer des phrases avec ça.
Ça risque de faire peur un peu parce que si on met cette IA en place, ça veut dire qu'on squeeze les commentateurs officiels et qu'on est obligé, enfin on oblige pardon, de mettre ça en place.
Alors on mettra jamais ça en place dans des événements comme ça, mais dans les jeux vidéo, je suis persuadé que ça risque d'arriver et ça fait très peur à ceux dont le doublage est le métier, parce que aujourd'hui des doubleurs peuvent se voir enregistrer leur voix et utiliser leur voix pour des mots qu'ils n'ont absolument jamais donné, pour je sais pas faire de la navigation GPS ou des choses comme ça, juste parce que avec quelques mots enregistrés, une intelligence artificielle est capable de reproduire sa voix sur n'importe quel mot. Et si un jour t'enregistres un peu de Donald Renew et que tu lui dis ensuite je me mets dans ton GPS TomTom et dis-moi Donald Renew tourner à droite, tourner à gauche, bah t'as la voix de Titeuf ou la voix de Spider-Man qui te dit tourner à droite, tourner à gauche, alors que lui n'a jamais donné l'autorisation d'utiliser sa voix, etc. Ouais. Donc oui, pour ça, ça fait un peu peur. Et c'est vrai que pour certains doublages d'animés de trucs 3D, les technologies d'IA sont tellement avancées, de plus en plus avancées, que l'avenir viendra, à mon avis, pour la génération, la génération d'IA. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ça arrive sur YouTube. YouTube génère des textes déjà en fonction des sons qu'ils entendent, mais ça va maintenant plus loin. Les textes maintenant sont lus dans une langue par YouTube, par une IA, qui te reproduit du coup le texte qui a marqué ici et qui du coup va te traduire une vidéo qui est en anglais. Derrière, ça va baisser le son naturellement et tu vas avoir le commentaire français comme sur RMC ou je sais pas quoi découverte. Ouais. Voilà, quand tu as les chasseurs de les chasseurs de bûcherons, je sais pas quoi, qui sont diffusés. Et derrière, t'as le commentateur français qui est là. Et bah, YouTube commence déjà à faire ça.
Et le truc quand on dit Exhibit là, ouais, je vais te tuner ta caisse.
Voilà, exactement. YouTube commence à faire ça.
Bah, même sur Android, en fait, tu as cette fonction.
Ouais.
Tu peux générer une voix qui
De ouf, mais ça c'est le futur hein. C'est même le présent hein. Ça arrive très vite
dans le sens où il y a le deepfake maintenant pour même imiter le visage,
c'est encore
donc si
plus,
tu prends du deepfake
horrible,
et de l'audio on peut vraiment donner l'impression que quelqu'un a dit un truc.
Après les droits à l'image vont être très importants à statuer, les droits aussi à l'audio vont être importants à statuer. Tout ce que je dis c'est que si quelqu'un a laissé son droit à l'audio en libre exploitation, demain le métier de doubleur, le métier de commentateur pourrait avoir de moins en moins de valeur parce que tout ça pourrait être généré par intelligence artificielle. En tout cas dans les langues qui ne sont pas les prime language le chinois ou l'anglais.
Comme le chinois et l'anglais qui sont les prime language. Okay. Et il y a un truc qu'on faisait avec les joueurs, c'est par rapport maintenant à la communauté, donner des avis. On va le faire même avec toi concernant les commentateurs.
Ouais.
Allez, commentateur le plus, on va être plus sympa au début, le plus underrated selon toi.
Oh là, j'en sais rien du tout. Faudrait déjà les rated, les commentateurs, pour les underrated.
Tu les rated jamais ?
Oh, moi je rated pas les commentateurs. Qu'est-ce que. Je sais pas. Moi.
Bah, ça va être celui que tu penses, que tu apprécies le plus, qui est le moins connu. On va dire ce ratio-là.
Ah, j'ai aucune idée, je peux même pas vous répondre. Franchement.
Ton commentateur préféré ?
Mon commentateur préféré, moi c'est les commentateurs japonais. Je pense pas Patty Wawa, ça fait partie de mes préférés. Mais j'ai énormément l'habitude de regarder des vidéos sans commentaire en fait.
Oh my god.
Bah oui, mais parce que en fait moi je les commente les vidéos.
Oui,
bah. Yeah.
Donc moi je regarde sans commentaire, moi j'ai pas besoin d'un mec qui m'explique ce qui se passe en fait. Moi je me hype sur une vidéo vide.
J'ai jamais entendu un truc aussi paradoxal.
Je regarde des replays à l'infini. Donc en fait moi j'aime pas les commentaires.
Oh my god. C'est quoi ça, ça va être le clip de l'interview.
En fait, j'aime pas ça, je préfère regarder quand il y en a pas. Ou alors je préfère surtout regarder quand je comprends pas, ça c'est sûr. En anglais je comprends, en français je comprends. Donc j'aime pas. Parce qu'à chaque fois je me dis j'aurais pas dit ça. Et en fait c'est horrible, tu vois. Donc je préfère regarder dans des langues où je comprends pas. Commentateurs espagnols, ils sont trop stylés.
Ouais, ils sont restés.
C'est trop cool.
Mais c'est vrai qu'ils s'ambiancent bien.
Mais même en foot, ils sont trop forts. forts, ils sont trop forts. Le flow, le rythme.
Et tu comprends pas l'espagnol.
C'est chantant. Non, je comprends pas l'espagnol.
Donc tant mieux.
Je comprends pas l'espagnol. Mais les commentateurs japonais aussi ont ce côté très chantant, mais parce que la langue est très phonétique. Mm-hmm. En fait, les langues qui sont très phonétiques, c'est bien. En anglais, j'entends amazing. Ça m'énerve.
Et le français, c'est dommage, c'est une langue qui est assez monotone au final.
De ouf. C'est
difficile. Sauf qu'il y a un accent.
C'est difficile de lui donner des accents. Ouais, mais moi, en tant que petit blanc, faut pas que je fasse d'accent à faire. Hein. Sinon, c'est vraiment très très chaud en 2022.
Tu fais Marseille.
Je me fais taguer partout, hop là, fin de carrière.
tu fais Marseille et à Forbach aussi.
Ouais, j'avoue.
Et tu vois, même quand tu dis Forbach, il y a.
De ouf. Ouais, c'est vrai que. Enfin, moi, je viens de l'est de la France, l'accent.
Attends, tu viens d'où?
De Troyes.
Ah, ok. Je croyais que tu venais de Nancy.
On n'a pas de Nancy, pas de Nancy. C'est encore un peu plus loin. Moi, je suis Troyes. Mais,
T'as deux doigts d'être parfait.
Chez nous, on parle comme ça, tu vois.
Ouais,
c'est ça, le vrai accent trop, c'est ça.
Non, ça, c'est pas bon.
T'imagines si je commande comme ça, Street Fighter
6, je.
Ça va te casser un peu les rognons, je pense. Ouais.
Là, c'est chaud.
On est d'accord? On est d'accord.
Bah, c'est chaud.
Voilà.
Alright, mais du coup, les commentateurs que tu entends aujourd'hui, ça t'évoque rien, que tu as pu entendre, on va dire. Ceux que tu n'as pas mis en off. Qu'est-ce que tu penses de la relève?
Franchement, je kiffe tout ce que j'entends. J'aime beaucoup les casteurs avec qui je travaille. Mais tous ici, que ce soit Cell, Reza, TPK, Airisu, Foster. C'est impossible de tous les citer. Ceux avec qui je commente là aujourd'hui, Street Fighter 4, que ce soit Kaïs, Elias, Liv, tout ça. J'aime beaucoup, j'aime bien tous ceux qui ont leur style qui leur est propre. Maintenant, moi, j'aime pas écouter des commentateurs. Voilà, j'aime pas m'écouter non plus, hein, je vous rassure. Hein, ouais. C'est pas une histoire de truc. À chaque fois que je m'écoute, je dis mais putain, mais je raconte que de la merde. C'est pas possible. Mais non, ça c'est pas un Tatsumaki, mais t'es con, putain, pourquoi t'as dit ça? Voilà, donc je suis content que ça plaise à beaucoup de personnes. Moi, je regarde. Je suis un mec qui regarde 3 heures de replay de tournoi d'arcade de Mark of the Wolf de la salade show sans commentaire, tu vois. Et je vois les mecs jouer, je fais putain, ça doit être trop fort. Et en fait, je commande derrière ma salle, tu vois. Et c'est ça que je kiffe.
C'est ton jeu préféré?
Mark of, ouais, c'est un, sûrement. Encore aujourd'hui, ouais.
Alright. There you have it, folks. Merci à toi en tout cas pour cette interview.
Désolé, c'est décevant.
C'était nul à chier.
Pourquoi?
Moi je suis arrivé, je me suis dit non mais Ken Bogard, le god. Et je dis ah ouais non mais c'est ça Ken Bogard.
En fait c'est qu'une merde, il croit même pas en lui.
On lui explique les gens jouent au jeu grâce
c'est
à
moi
lui.
C'est moi qui est obligé de lui apprendre son métier, c'est quand
non,
même terrible.
C'est pas le cas.
Il veut pas prendre l'argent.
Yeah, ouais, je prends pas l'argent, je vaux rien. Moi j'aime faire que du vélo, voilà.
J'aime avoir une vie tranquille, ça c'est vrai.
Ouais. Ok, donc Mr. Troy, Ken Bogard était avec nous, c'était Izu DW en direct de l'UFA avec JQQ, JWQ, JQ Square, aka Chaz. Et on remercie encore le GOAT, the OG. Tout ça, ça veut dire des choses bien.
Merci beaucoup.
Ken Bogard.
Merci. Check les gars.
Allez, ciao.